Donc, papa gouvernement doit piger dans ses poches pour le donner à la STM pour des chauffeurs d'autobus. Et là, tu vas me dire que je caricature Antonine, puis tu vas sûrement avoir raison. Mais pour des chauffeurs d'autobus qui ont 15 jours de congé maladie payés par année, qui sont le plus haut salarié dans l'autobus qu'ils conduisent lorsqu'ils transportent des gens au travail. Et la solution de QS, c'est de ne pas prendre soin des gens les plus vulnérables qui sont assis dans le siège des passagers, mais de dire « Gouvernement, trouve-nous des fonds. »
Pas juste ça, c'est de la faute de la CAQ.
Oui,
donc,
c'est
la
ça.
Grève, c'est, résumons-le, c'est des travailleurs qui travaillent pour une société de transport qui est de juridiction municipale, on est d'accord?
Oui.
Puis là, ça va être de la faute du gouvernement du Québec.
C'est vrai, t'as tellement raison.
Si on n'a pas d'entente entre les deux, parce qu'on ne met pas assez d'argent dans les sociétés de transport. Bon, t'as caricaturé. Maintenant, quand on essaie de nuancer un peu la chose, c'est vrai que si on dit que le transport collectif, c'est un service essentiel, ben il faut mettre les moyens qui vont avec. Puis c'est vrai que de couper dans les transports collectifs, moi, je pense pas que c'est une bonne idée. Maintenant, il y a un ménage qui a été demandé par le gouvernement en société de transport et la STM ne peut pas compléter son ménage si les travailleurs puis les syndicats ont des demandes qui sont irréalistes. Si, par exemple, on regardait les conditions de travail des travailleurs de la STM puis qu'on voyait que il y a un rattrapage à faire, ça n'a pas de bon sens. Si je pense, par exemple, je fais une comparaison, mais aux éducatrices en garderie il y a quelques années, ben, si on dit les garderies, c'est un service essentiel, puis qu'on voyait qu'ils gagnaient, les éducatrices gagnaient 30 000 $ puis ça n'a pas de bon sens avec tout le travail qu'elles font, tu vois qu'il y avait un problème ici, il y avait un déséquilibre parce qu'elles n'arrivaient pas à aller chercher des conditions de travail qui avaient du bon sens. Je les ai regardées, les conditions de travail des gens qui travaillent à la STM. Honnêtement, je dis, il y a toujours place à l'amélioration. Je veux que les gens aient des bonnes conditions de travail, mais il n'y a pas de rattrapage à faire.
Non, exactement.
Ce sont de bonnes conditions de travail. Donc, est-ce qu'il faut absolument qu'on injecte davantage d'argent pour satisfaire les demandes syndicales à l'heure actuelle? Ben, malheureusement, la réponse est non dans ce cas-ci. Quand tu as le pouvoir de paralyser une ville, là, c'est sûr que tu as un levier de négociation qui est démesuré.
Tu amènes un bon point. Je ne crois pas que la recherche d'amélioration des conditions de travail à la STM, des gens qui ont déjà des bonnes conditions de travail, mérite de complètement geler la ville comme ils le font.
Et puis là, ce qu'on veut faire en élargissant la notion de service essentiel, c'est pas de dire, ben, il faut qu'il y ait 100% du service, vous n'avez pas le droit de faire non. Aucun moyen de pression. Donc, je pense qu'on vient rechercher un équilibre qui n'était pas là, en fait. Puis c'est du cas par cas, hein, les conflits de travail. Tu peux pas faire du paramétrique, mais dans ce cas-ci, je pense que le projet de loi va être très, très utile. Et je pense que le projet de loi de Jean Boulet a été fait de manière prudente et équilibrée, même si on fait évidemment de la politique tout le temps sur le dos des syndicats, puis que le gouvernement n'a pas toujours raison de le faire. Dans ce cas-ci, je pense que la joke a assez duré là, avec la STM. Là, il est temps que ça commence à refonctionner.
Je suis clairement d'accord avec toi. Antonine, hier, on a vu une vision. Hein, Pascal, toi aussi, tu l'as vu. Hein? La vision François Legault. Le PowerPoint.
Ouais.
Le PowerPoint.
L'économie du Québec va se transformer et ça va passer par deux choses. Hydro-Québec est une société d'État, donc encore de l'interventionniste, et le militaire, parce que là, Mark Carney est sorti depuis février en disant « Militaire, le militaire va tout nous régler, l'économie va passer par le militaire. » Fait que moi, empreint de cette vision-là, ce matin, Antonine, tu comprendras que dans Marceau le matin, on avait Joël Lightbound, ministre fédéral, député de Louis-Hébert, qui était assis en studio avec nous. Alors, j'ai posé la question à M. Lightbound, « Hey, le militaire, ça va tout améliorer. La Lévis va avoir des contrats. Québec va déborder de contrats. L'économie de Québec est sauvée par le militaire. » Je te fais entendre sa réponse.
Ben,
Attends une minute. Le militaire, le Canada, le Québec, on part. Yes! On a réglé notre problème d'économie. Mais là, les sous-marins, ça va être des Sud-Coréens puis des Allemands qui vont y construire. Puis là, il est trop tôt pour savoir quelle retombée économique je vais avoir ici à Québec, au Québec, au Canada. On est-tu sur le mirage Nordvolt?
Écoute, vision, mirage, avec une pincée de pensée magique. C'est un peu ce qui retient mon attention à maintenant que ça fait 24 heures que le premier ministre a présenté sa vision. Cela dit, c'est vrai qu'il va y avoir des opportunités économiques pour le Québec. Il ne faut pas penser qu'on va devenir là, des chefs de file en fabrication de F-35 puis de sous-marins. Là, ça n'arrivera pas. Par contre, il y a toute une industrie, pas parallèle, mais connexe, qui peut profiter de tout ça, notamment l'aérospatiale, évidemment la Navy, tu sais, tout ça, oui, il va y avoir des opportunités économiques. Est-ce que c'est la panacée, puis est-ce que ça va arriver dans 3 mois? La réponse, c'est non, évidemment. Puis une autre affaire aussi avec le militaire, c'est que moi, je nous dis, soyons prudents avec achat local à tout prix quand il est question de militaire. Okay? Moi, je suis pour ça, là, l'achat local, puis vous autres aussi, probablement. On est tous pour la tarte aux pommes dans la vie, là. Mais quand il est question d'acheter du matériel de défense puis militaire, là, tu veux le meilleur matériel. Là, OK? Puis il y a des gens, il y a des pays que ça fait des années qui ont une industrie puis qui passent leur temps à parfaire et à faire de la recherche et développement sur le sujet. Et c'est vrai que quand on veut avoir moins de dépendance envers les États-Unis, puisque le réflexe, c'est toujours d'aller aux États-Unis, évidemment, pour toutes sortes de raisons, ben il faut se tourner vers d'autres pays. Mais ça ne sera pas fait à Saint-Clin-Clin, à Québec, au Québec l'année prochaine. Là. Ça n'arrivera pas. Ça va peut-être être plutôt la France, la Corée, tous des bons exemples. Exemple, l'Angleterre, mais on ne va pas être dans l'achat local. On essaie de réduire notre dépendance face aux États-Unis, puis on essaie aussi de profiter d'un contexte international. Puis M. Legault s'accroche à la locomotive de Mark Carney. Pourquoi? Parce qu'il va sortir le portefeuille, puis le Québec va avoir sa part du gâteau. Maintenant, en termes de calendrier politique, là, M. Legault, on ne verra pas les retombées de ça d'ici la prochaine campagne électorale. Fait que le positionnement qu'il a pris hier, un positionnement qui est électoral aussi. Pas que ça enlève de la sincérité à sa vision, puis je pense que c'est vraiment sa pensée économique qu'on a vue hier. Mais dans les faits, il veut se positionner pour la prochaine campagne électorale, être le chef qui a la pensée économique la plus achevée, puis qu'on le regarde à côté d'un Paul Saint-Pierre Plamondon qui veut faire un référendum, puis d'un Pablo Rodriguez qui n'a jamais eu un profil très, très économique, puis qu'on se dise, ouais, t'sais, dans le fond, si l'économie c'est une priorité, ben, ça serait M. Legault. Est-ce que ça va fonctionner? Ah, ben là, ça, c'est une autre histoire.
On va revenir à la conversation d'hier sur le messager n'est plus le bon, puis je pense
le
qu'on
message n'est
va...
pas pire.
Ouais, c'est ça. Je pense qu'on va tirer les mêmes conclusions.
Mais ça l'a dit, Jeff, en conclusion, tu sais, j'ai trouvé que l'annonce d'hier, c'est l'annonce de la CAQ la mieux accueillis depuis longtemps. Ils se sont pas fait là, tirer des tomates plus qu'il faut. Je disais, il y a une bonne stratégie de communication aussi où est-ce qu'ils avaient préparé le terrain avec plein de médias. Tout
ben,
ça.
Il y a tellement remercié le monde au début qu'à un moment donné, il n'en restait plus à être fâché.
Exactement, c'est une bonne stratégie.
Tu sais, quand ça prend 35 minutes, on remercie le monde qui sont là, puis personne n'est fâché après.
C'est long, hein?
Ah, c'est
long.
Long
un peu. Cela dit, regardez l'accueil. C'est, je veux dire, les partis d'opposition vont s'opposer.
Bon,
ça,
oui,
c'est bien
normal.
Correct, là. Mais globalement, c'est l'annonce la mieux accueillie depuis un sacré bout de temps qui arrive de M. Legault. Fait que je sais pas si ça lui redonne espoir. De toute façon, moi, je trouvais que ça avait pas l'air d'un gars qui s'en allait à Noël puis qui allait lancer une course à chérie.
Puis là, ça a encore moins l'air de ça. On termine le caucus Iaccarini qui est avec nous du lundi au jeudi à l'émission d'En Jazz de midi à 12h30. Antonine, les libéraux qui demandent une enquête du vérificateur général dans le dossier de santé numérique. On s'en va-tu vers une deuxième commission d'enquête où là, si le VG fait son enquête puis qu'on a le rapport Galant, on va pouvoir mixer des affaires, t'sais, je pense que ça serait la bonne stratégie à utiliser parce qu'on s'entend, Pascal nous le disait hier en nouvelle, on a parlé avec Nicolas Lachance aussi, c'est autant le bordel dans santé numérique que ça l'était dans sa clique.
C'est tellement déprimant, là. Je suis déprimée un peu aujourd'hui. Bon, d'abord, sur le fond des choses, oui, je pense qu'on s'en va vers je vais dire un fiasco, mais ça peut se dérouler de plein de manières. C'est-à-dire que déjà, le côté financier, on voit que ça ne fonctionne pas. Mais après ça, l'atterrissage, on ne le sait pas encore. Parce que le problème avec SACLIC, c'est que non seulement on a eu des dépassements de coûts complètement fous, mais en plus, ça ne fonctionnait pas. Puis on a eu un fiasco de service à la clientèle.
Les fils dehors à moins 25, là, c'était épouvantable.
Ah, c'était vraiment un merveilleux souvenir.
Mais souviens-toi, pendant ce temps-là, calme à l'enfant dans sa tour d'ivoire, regardait le simple peuple dans sa file et se disait
que ça allait bien.
Ça va bien, il n'y en a pas de problème, je
pas
suis
problème.
Compétent. Éric Kerr demandait des éloges à la population.
Oh mon Dieu, tu nous rappelles toutes que des beaux souvenirs aujourd'hui. Fait, pour ce qui est du dossier santé numérique, j'ai pas de boule de cristal. Je sais pas si à la fin de tout ça, peut-être qu'on va avoir trop sorti d'argent de notre porte-monnaie, mais peut-être que ça va super bien fonctionner. Fait que là, ça reste à suivre pour savoir si ça va finir en sac-clic. Maintenant, on attend impatiemment le rapport Galland. Parce que ces recommandations-là, on se doute qu'est-ce qu'elles vont être à peu près, là, mais il faut qu'on les mette en application. Puis le dossier santé numérique, ben c'est sûr, c'est un dossier, c'est un projet de transformation numérique qu'on a démarré dans les mêmes conditions qu'on avait démarré d'autres projets numériques qui s'en vont dans le mur parce qu'on n'est pas bon, parce qu'on n'a pas de compétences à l'interne, parce qu'on n'a pas une bonne gestion de projet, parce qu'on ne sait pas comment travailler avec le privé, puis parce qu'il n'y a personne qui connaît l'informatique non plus dans la strate politique d'un cabinet. Fait que c'est la même chose pour le dossier santé numérique. Tant qu'on ne va pas mettre des recommandations très importantes en application, ben c'est évident que tous les dossiers de transformation numérique qui sont en cours, ben, ils s'en vont dans le mur. Il n'y a pas de surprise là.
En plein ça, pas de surprise là. On va suivre attentivement les développements et à souhaiter justement qu'on puisse faire des liens entre ce qui se passe en santé numérique, le rapport du commissaire Galland. Je souhaite une enquête du VG et là qu'on puisse justement enfin reprendre le contrôle avec certainement un autre gouvernement à compter de 2026.
Puis les libéraux sont bons, je trouve, dans le dossier parce que, tu sais, ils font de la bonne politique avec ça. Mon chef d'Éragie a été un porte-parole drôlement efficace. Le Michel Cetlacoué, cet automne, qui a
Oui.
lancé des idées très concrètes avant même la publication du rapport. Puis d'après moi, ces recommandations-là vont être dans le rapport. Fait qu'elle va pouvoir dire, ben, je l'avais dit. Et là, les libéraux demandent une enquête du VG. Je voudrais quand même préciser que ça ne marche pas de même, le VG, là, tu sais, dans le sens que le VG est complètement indépendant du politique. Puis probablement que il y avait déjà la puce à l'oreille. Fait que ce ne sera pas pour répondre à la demande des libéraux que le VG va commencer à enquêter sur ça. D'ailleurs, il y a un rapport du VG qui s'en vient quand même assez bientôt, mais qui est sur de tout autre sujet. C'est toujours hyper croustillant chaque fois que le VG sort un rapport, puis il y a des gens stressés là, dans certains
Ça va être sur
ministères qui
quoi? On
savent que
sait-tu
ça s'en
déjà?
vient. Il y a quelqu'un qui m'en a glissé un mot, mais là, j'avoue que je ne les ai pas en tête,
Parfait. Oh, j'ai
je
hâte.
les avais pas notés, mais on s'en reparle, Jeff.
J'écoute toujours les conférences du VG avec émotion. Non.
Mais imagine, là, tu travailles dans un ministère, là, puis là, tu as un appel, c'est le
Oh,
VG, il commence une enquête, là, faut que tu sortes tous tes documents. Tu le sais que ça va venir. Nous autres, tu sais, grand public, on l'apprend le jour même dans une conférence de presse, là, mais il y a des gens qui ont passé probablement quelques nuits blanches avant la publication d'un rapport. Donc, les libéraux qui demandent une enquête du VG sur le dossier santé numérique. T'sais, d'habitude, c'est des enquêtes qui finissent par aboutir vraiment des mois, voire des années plus tard. Donc, peut-être que ça va arriver plutôt après la prochaine campagne électorale.
En effet. Merci beaucoup, Antonine Yacarini. T'es-tu avec nous en studio demain?
Yes, à demain.
Yes,
À
excellent
demain.
demain. Merci beaucoup, Anto. C'était Antonine Yacarini dans le caucus chaque lundi au jeudi à partir de midi jusqu'à 12h30. Pascal, avant qu'on passe à notre invitée Marie-Josée du Centre des ressources pour les familles militaires de Valcartier, parce que c'est le jour du souvenir, tu m'écris news.
News commerciale, nouvelle
Vas-y donc.
commerciale. En fait, ça fait 20 minutes exactement que c'est tombé. Ça vient d'être annoncé sur la page Facebook du commerce. C'en est un autre dans Saint-Joseph qui tombe.
Oh non.
Alors, très connu des fêteurs, le district Saint-Joseph, ouvert depuis 2015, donc 10 ans à faire vibrer.
Et qui a fait partie du renouveau Saint-Roch, là.
Oui. Qui ferme les lieux. Je vous lis ce qui est écrit. Après 10 ans à faire vibrer ce lieu, le renouvellement du bail nous a amené à réfléchir profondément. Nous avons compris qu'il était temps de baisser le rideau. Les travaux, le stationnement, les aléas du quartier ont peu à peu éteint la flamme, mais les souvenirs, eux, resteront bien vivants. Merci à tous ceux qui ont ri, chanté, dansé et partagé un verre ici. Merci à notre équipe, à nos habitués, à nos amis. Vous avez écrit cette belle histoire avec nous. Notre dernière sortie, et ça en sera toute une, sera le 31 décembre. N'hésitez pas à venir partager un dernier moment avec nous ou à laisser vos meilleurs souvenirs en commentaire. Ils comptent beaucoup pour nous. Avec gratitude, Louis. Donc, c'est la fin pour le district Saint-Joseph dans le quartier qui a bien des défis. Un autre commerce qui tombe.
Alors, c'est très, 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 très triste pour Saint-Roch, pour Saint-Joseph, le district. J'ai passé beaucoup de belles soirées là à découvrir des petits bands underground.
Oui, puis on a fait des
J'aimais
événements.
Vraiment, on a fait des événements.
On mangeait bien.
Je suis pas surpris, par contre, parce que les deux dernières fois, je suis allé au Grizzly Fudge, je suis allé manger au district avant, puis je dois t'avouer que je trouvais qu'il y avait une baisse de clientèle, malheureusement.
Au niveau de la restauration, moi aussi. Par contre, pas au niveau du party. J'avais remarqué que moi, les soirées étaient assez solides.
Ah oui,
au niveau de la
pas mal de
jeunesse,
party.
Tu sais, quand tu commençais à sortir, toi, jeune, mettons, là, avant nous autres, c'était le Dagobert qui était prisé sur Grande Allée à 18 ans.
Là, c'était
J'ai
le
l'impression
district.
que c'était le district pour les jeunes,
Bon.
Mais chose certaine, peut-être qu'effectivement, le party faisait pas les soupers ne faisaient pas ce qu'on faisait. À, l'alcool a diminué chez les jeunes aussi. Il y avait-tu moins de consommation? Il y allait-tu pas pour danser? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tout se retrouve dans les lignes qui nous ont servi sur leur page Facebook.
C'est un excellent point. On va souhaiter bonne chance aux propriétaires. Puis on va surtout souhaiter qu'on retrouve un établissement très rapidement dans ces beaux locaux à proximité justement de la salle du Grizzly Fuzz. On va rejoindre en ligne Marie-Josée, qui est du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier, évidemment. C'est dans le cadre du Jour du souvenir. Marie-Josée, comment vas-tu?
Ça va bien. Hey, merci de me recevoir ce midi. Là, si vous saviez à quel point ça me fait plaisir de vous parler. Là.
Ça fait super plaisir. Marie-Josée, Pascal va nous en parler tantôt. Ouais. Bon, il y a de la poutine, 2$ par poutine à fromagerie Victoria, ça s'en va là. Il y a une nouvelle bière. Mais explique-nous, c'est quoi les services du Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier?
Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, en premier lieu, c'est qu'on est un organisme sans but lucratif. Il y en a des fois qui pensent qu'on appartient à l'armée ou qu'on est à côté. Bien, on est à côté, mais on doit vivre de subventions. Puis, évidemment, c'est toujours une lutte, là, pas quotidienne, mais puis annuellement, il faut toujours voir à ça, aller chercher des fonds pour faire vivre le centre, puis continuer d'offrir des services, les varier, puis en ajouter aussi si possible. Donc, nous, on va s'occuper principalement des familles de militaires, les familles de vétérans, les familles de réservistes aussi. Je parle beaucoup de familles. Famille, c'est qu'un militaire actif, faut que vous disiez ça, ils ont beaucoup de services sur la base militaire. Ils vont s'occuper de leur carrière, ils vont s'occuper de toutes sortes de choses. Le suivi psychologique, s'il y a lieu. Mais nous, on s'occupe de ceux qui sont avec les militaires, ceux qui font en sorte que un militaire, on dit souvent un militaire heureux, particulièrement en mission, c'est parce que sa famille va bien. C'est lié ensemble. Mm-hmm. Donc, nous, on est là pour le volet famille et tout ça. Puis, ce qui arrive aujourd'hui, parce qu'on est dans le jour du souvenir, puis là, vous m'offrez une tribune, c'est incroyable pour dire un message qu'on a peut-être des fois de la misère à faire passer, c'est qu'auprès des vétérans, on donne des services, les familles de vétérans, des fois, il y en a qui pensent, ben oh, moi, j'ai quitté les forces, ça fait 5 ans. Ben attendez, les amis, là, le service, c'est pour toujours, c'est pour toute la vie. C'est toute la vie, on va accompagner les familles de vétérans. Il arrive quelque chose, des fois, quand un militaire va sortir des forces, on dit un vétéran, puis des fois, on a l'image c'est d'un monsieur qui est très âgé, qui a beaucoup de médailles. On voit ça aussi beaucoup pendant le jour du souvenir. Là, c'est beaucoup ça qu'on voit. Mais dites-vous qu'un vétéran, ça peut avoir 43 ans, des jeunes enfants, une conjointe qui a une vie active. Puis ce qui peut arriver, c'est après les forces, c'est, par exemple, s'il y a eu des blessures opérationnelles pendant le service, il peut arriver que ce militaire-là ait besoin de soins, d'avoir des rendez-vous, d'avoir un suivi. Puis souvent, c'est sa conjointe qui va prendre ce rôle-là, sans dire, ben, ça peut être quelqu'un qui peut être considéré comme proche aidant, mais quand t'as une vie active, les enfants à les porter à la garderie, au hockey, tout ça, mais en même temps, t'as ton chum qui a besoin de toi à temps plein, ben, t'as besoin aussi d'un centre de ressources qui va te donner un coup de main, qui va te donner des outils pour passer à travers ça, parce que c'est pas évident. Et ça, pour les conjoints, conjointes de militaires, de vétérans, on est là, on lève la main, mais c'est pour tout le temps. Puis en ce moment, on a fait une grosse, grosse, grosse campagne de pub pour dire essentiellement ce que je viens de vous dire là. Écoutez, on est là tout le temps, parce que c'est dur en ce moment. Il arrive des moments où c'est peut-être moins évident, mais il y a un CRFM qui va vous donner un coup de main, puis le CRFM Valcartier, c'est le plus gros au Canada. Vous demandez c'est quoi un CRFM? J'ai peut-être pas répondu complètement. Il y en a partout, partout, à peu près, où il y a une base militaire avec des familles. Là, c'est une base où est-ce qu'il y a des gens qui habitent là, des familles. Il y a un CRFM à côté. Il y en a une trentaine à travers le Canada. Fait que c'est sûr que celui de Valcartier, c'en est un important. On a beaucoup de services, des services à l'enfance. On a une maison de garde, puis avec un parc là, pour amuser les enfants. On a des installations pour le psychosocial, de suivre, faire des suivis là, avec des TS qui sont extraordinaires. On a un service d'aide à l'emploi. T'sais, on est vraiment équipés. Tous les CRFM ne sont pas équipés peut-être à ce point-là, mais un CRFM est toujours à la recherche de sous et de tout ça pour ajouter des services et devenir optimal pour chacune des familles qui vont aller faire un tour là.
Excellent. Marie-Josée, comment on fait si on veut donner autre qu'aujourd'hui avec la poutine et la nouvelle bière? Est-ce qu'on peut aller sur votre site web? Comment qu'on fait pour vous aider?
Bien, premièrement, tu fais bien de le rappeler, Jean-François, c'est le 2$ par poutine vendu aujourd'hui dans toutes les fromageries Victoria à travers le Québec. Je pense que s'il y en avait une installée sur la Lune, Michael des fromageries Victoria, il trouverait le moyen de l'impliquer. Ça n'a pas de bon sens. 2$ par poutine vendu, ça va avoir un impact extraordinaire et concret pour votre CRFM. C'est touchant, c'est inespéré. Là, juste à côté de où est-ce qu'ils collent les poutines.
Ben oui, hein, on entend le bruit, let's go! Tu nous donnes faim!
Ils vont me nommer, ce ne sera pas long. Puis il y a aussi, ben, si ça vous tente de faire un petit cadeau au bas de Noël, la bière, la victorieuse, Elle, c'est pas juste pour aujourd'hui, c'est 2 $ par bière vendue. Eh bonne, cette bière-là, en plus, à l'heure du midi, je pense que je peux en parler librement. Mais si vous passez cette bière-là, en faire la dégustation, puis encore là, il y a 2 $ qui vont aller dans les CRFM. Pour répondre à ta question, pour faire un don, vous pouvez aller sur notre portail, crfmv.com. Puis là, là-dessus, vous avez tous les détails, les façons de nous joindre, les façons de faire des dons, puis de nous soutenir de toutes les façons. Puis, si vous êtes proche de familles militaires, tu sais, conjoint, mais aussi, ça peut être papa, maman, ça peut être des proches, vous êtes les bienvenus au CRFM Valcartier.
Marie-Josée, continuez votre excellent travail. On vous supporte, merci. Et on vous supporte pas juste dans le jour du souvenir, mais dans tous les jours de la semaine. Merci beaucoup pour ta présence dans l'émission d'En Jase aujourd'hui.
Merci infiniment de m'avoir reçu. Je vous souhaite une belle journée.
Salut Marie-Josée. Salut, bonne journée. C'était Marie-Josée, coordonnatrice là-bas au Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Pascal, rappelle-nous, là, une poutine, parce que là, le monde est en déplacement, c'est l'heure du dîner. Il y en a qui ont une fringale.
C'est l'heure. Hey,
là, je m'en vas-tu au service à l'auto de la fromagerie Victoria? Ça va donner quoi?
La réponse, c'est oui. Puis au pire, si t'as mangé ta sandwich au ballonné, attends 2 heures, puis vas-y, pareil.
C'est parce quoi que... si t'as mangé ta sandwich au ballonné? Elle était pas bonne comme la poutine de la fromagerie Victoria.
C'est 24 heures. C'est la journée au complet où une poutine égale un don. Moi, s'il y a des entrepreneurs qu'on peut encourager quand ils décident de jouer pour la société, moi j'appelle ça le scorer dans un but, là. C'est comme les entrepreneurs de la fromagerie Victoria. Le 11 novembre, depuis plusieurs années maintenant, c'est là où on savoure une poutine, la vôtre, la vôtre préférée, n'importe quelle poutine, et tu poses automatiquement un geste qui compte. On en a parlé, mais chez Fromagerie Victoria aujourd'hui, on soutient le jour du souvenir. C'est 2 $ par poutine vendue, peu importe le format, peu importe la sorte de poutine, qui s'en va directement au Centre de ressources pour les familles militaires de Valcartier. Donc, c'est valide dans toutes les succursales Fromagerie Victoria, toute la journée. Ce soir, congé de souper, ce midi, congé de dîner, peu importe, tout le monde mange de la poutine à Québec. C'est vraiment pas une tâche complexe et difficile, puis c'est certainement pour le bonheur de nos papilles gustatives, mais vous soutenez la cause. 2 $ pour la meilleure poutine qui déborde de fromage en grains, qui est fait à 100% de lait entier, qui provient directement des fermes d'ici, dans 5 succulentes sauces. Vous la choisissez. Il y a vraiment des choses pires que ça dans la vie, on s'entend, là. Alors, c'est tout le monde de la ville de Québec qu'on attend aujourd'hui à la fromagerie Victoria. Si vous avez peur d'être dans le fil du dîner, pas de stress, là. Allez-y à 13h, allez-y à 14h, allez-y à 15h. On vous attend en grand nombre. Vous faites une différence à chaque bouchée. Vous donnez du sens à des gens d'ici, donc chez Fromagerie Victoria. 11 novembre, c'est aujourd'hui. On pense à nos vétérans. On va manger de la poutine.
Merci beaucoup, Pascal. Pascal, on a ouvert une boîte de Pandore hier avec l'entrevue avec Isabelle qui nous a expliqué sa situation familiale, des personnes immigrantes françaises qui contribuent à la société, mais malheureusement, son mari ne peut plus travailler ici.
Exactement. En fait, c'est qu'ils avaient des permis de travail. Pour elle, c'était un permis de travail qui était, bon, aussitôt longtemps qu'elle le souhaite, puis son permis de travail pour son mari, il était temporaire. Et là, on a dit, ben non, ben on n'a plus besoin de toi pour travailler à la Sopfeu. On n'a plus besoin de toi pour travailler comme déneigeur l'hiver. Mais on comprend pas ça. Puis là, elle est rendue le seul salaire familial. Puis elle se dit, ben là, je vais retourner en France, moi, dans un an. Je serai pas capable, dans ce contexte économique, d'être la seule pourvoyeuse de la famille. Puis son mari se mord les doigts sur le divan. Il a l'impression d'être inutile. Ben oui. Et pourtant, ce sont des emplois dans lesquels on a une pénurie de main-d'œuvre. Il n'y a rien à comprendre. Et on n'arrive pas à se défendre, puis on n'arrive pas à ravoir un permis de travail pour son mari. Puis même lui se fait contacter pour travailler, comme on dit, sous la légalité.
Oui,
donc,
c'est ça.
Pas vraiment
le fameux travail au noir.
Ouais.
On a un ami commun qui est Maxime Lapointe, avocat spécialisé en immigration. J'y ai envoyé notre entrevue d'hier. Il me dit « Jeff, m'en viens voir en studio. Il faut absolument qu'on parle de ce cas-là. » Donc, c'est ce qu'on va faire immédiatement après la pause. Ça te convient?
Absolument.
Excellent. Vous êtes à l'antenne de Boulevard 102 à l'émission On en jase.